j'aurais bien aimé. Comment tu y vas?
Un bouquin n'importe quel.
Un bouquin un peu plus près de son
enseignement. Ouais, bah c'est pour ça.
Non,
bah attends.
Tu
veux
pas
faire
ça
ouais, n'importe lequel en fait.
Un petit week-end, ça fait du bien.
C'est quel jour le spectacle?
C'est très bien. C'est très très bien.
Tu restes alors pour Shabbat?
C'est très très bien. On va faire ça comme ça. Et voilà. Tu veux le rapprocher encore ? Alors, rapprochons le matériel. Voilà. Yofi. Alors, Erev Tov, les Koulam, le Shiur, il est les Iloui Nishmat, et Lazar, Yaakov Ben Lazar, je vais y arriver un jour, et aussi les Iloui Nishmat de mon beau-père. Yehuda Gershon Alevi Ben Meir. Oui. Malasot.
Où est-ce qu'elle
fait Shiva? En Angleterre. À Manchester. À Manchester, il va
coller.
Si, si, mais.
Comment tu t'en sors avec tes enfants?
Il était
haché. Eh ben.
Hein? Eh ben, ils s'en sortent.
Personne ne pose la question à ma femme quand moi je suis pas là, mais comment tu t'en sors avec tes enfants? Mais ça va. Aujourd'hui, c'était compliqué. Alors aujourd'hui c'était parce que j'étais pas là.
Ben oui.
Et qu'en plus, on a reçu un message à 10h hier soir que vendredi dernier, il y a un des enfants qui était en classe avec mon fils.
Et voilà.
Oh.
Donc fallait l'amener faire une dicat corona, machin. Kitzur, Baruch Hashem, la vie, elle n'est pas ennuyeuse.
Quel âge il avait?
Ni ennuyante. Hein, quoi? Et il avait 76 ans, 77 ans.
Notre âge,
c'est
notre âge
de mon
frère. Normal.
Bon, mais c'est incroyable parce qu'elle avait envoyé un message pour lui faire des prières et le lendemain on l'apprend qu'il est décédé. C'est fou quoi.
C'est-à-dire que pendant un mois comme ça.
Ah, il a été malade.
Pendant les deux premières semaines, malade mais bon truc, après ça s'est dégradé, hôpital et machin.
Je pensais qu'en Angleterre on mourrait pas du Covid.
Non, on meurt mais on le dit pas que c'est du Covid, on meurt. Pour eux c'est plus. C'est bien un truc. Bon, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
On part.
Voilà, on part. Et Bezrat Hashem, on reviendra bientôt.
D'accord,
Naamod, le Goralenu, le Ketseyamin, Bezrat Hashem. La Triat Ametim, ça fait partie des éléments de base de la Emouna du peuple juif.
Il y a un très bon chéri, on dira Pierre Kiss.
Il y a eu un semblant.
C'est fort.
Pourquoi faire? Ah, pour que.
Il y a un très bon chéri, on dira Pierre Kiss.
Sûr.
Très bien.
Bon, bah tu vois. Donc, alors les amis, nous on revient dans notre étude du livre de Bereshit et nous sommes au chapitre 2. Au verset 4, chapitre 2, verset 4, et en fait, on va voir ici, alors, on a terminé la création, on a expliqué toute la création, mais on l'a expliqué d'un point de vue. Là, on va parler d'un autre point de vue qui va presque annuler tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Ben parce que le verset commence en disant « Elle est toledot ha-shamayim ba'aretz be'ibara'am » Et nos sages dans le Talmud vont nous expliquer, à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah « Elle est », c'est comme pour annuler ce qu'il y avait avant. Lorsqu'il y a marqué « Ve elle est », c'est pour rajouter à ce qu'il y avait avant. Donc là, il y a marqué « Elle est toledot ». Donc ça veut dire qu'on annule ce qu'il y avait avant. Alors évidemment, pas qu'on annule, mais qu'on va voir la création sous un autre angle, un autre œil. Jusqu'à présent, celui qui créait s'appelait Elohim. Et bien là, maintenant... Pour la première fois, on va rentrer en scène un autre dévoilement de Dieu. Regardez le verset. « Ele toldot ha-shamayim va-aretz be-ibar-am be-yom asot Adonai Elohim eretz ve-shamayim. » Pour la première fois, on voit le nom du tétragramme, Yud-Ke-Vav-Ke, qui apparaît. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir revoir toute la création aux yeux de Hashem Elohim et non plus seulement de Elohim. Mais avant d'arriver à cela, donc « Ele toldot ha-shamayim va-aretz », je voudrais simplement... vous rappelez une petite chose, un secret que Manitou nous avait légué, c'est que le mot toldot, qui était si cher à son cœur, les engendrements, apparaît 10 fois dans tout le Tanakh. Le mot toldot. Seulement, il ne s'écrit pas pareil dans ces 10 fois. Il y a 2 fois où il apparaît en ktiv malé, c'est-à-dire avec 2 vav. Ketav, vav. Lamed, Dalet, Vav, Tav. Ça, c'est 2 fois. Une fois où il apparaît en ktiv, chaser, chaser, c'est-à-dire sans Vav du tout. Tav, Lamed, Dalet, Tav. et cette autre fois où il y a un seul vav, ou au début ou à la fin. Nos maîtres de la Kabbalah nous enseignent que le vav, c'est quoi le vav ? La lettre vav, c'est ce qui permet de relier le ciel et la terre. C'est un trait qui vient relier les cieux avec ici. En d'autres termes, lorsqu'il y a ce vav, c'est pour dire que le projet divin est descendu ici et s'est réalisé. Lorsqu'il y a les deux vaves, c'est que tout le projet divin s'est réalisé. Lorsqu'il y a un seul des deux vaves, c'est qu'une partie du projet divin s'est réalisé. Lorsqu'il y en a zéro, zéro. La tête à Toto. Alors, je vous le donne en mille. La fois où il y a zéro vave, c'est Elé Toledot Ishmael.
Tiens, comme par hasard.
Voilà. Quand on nous parle des engendrements de Ishmael, il semblerait que...
Ça n'existe pas.
Non, ça existe, non, mais ça ne s'est pas bien réalisé.
Ça s'est bien passé.
Les deux fois où il y a deux vaves, c'est ici. Elle est Toledot Hashamayim Ve'aretz Be'ibaram. Et la deuxième fois, ça sera dans le livre de Ruth, lorsqu'on mettra en avant les Toldot de Boaz, Ishaï et David, pour arriver au roi David. D'accord ? Donc ça, c'était simplement pour qu'on voit de quoi on parle. Donc, elle est toldot Hashamayim Ve'aretz Be'ibaram. Voici les engendrements du ciel et de la terre dans leur création. Regardez ce que, enfin, je sais pas si ici ils le disent, non, ici ils disent pas. Bon, mais le Talmud nous dit, Al tikra Be'ibaram, ne lit pas dans leur création, mais lit Be'Avraham. C'est les mêmes lettres. Il faut changer un petit peu. Enfin, un mix-max. Et on arrive à Abraham. Alors, ça veut dire quoi ? Be'Ibaram, non, li Be'Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il y a un petit hey d'ailleurs.
Il y a un petit hey, nahon.
Tout petit.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Be'Avraham ? Lo, que Dieu, c'est Abraham et qu'il a créé le monde. Et la Be, comme on avait dit, Be'Reshit. Bishvil Reshit. Voici les engendrements du ciel et de la terre. Et pour qui ça a été fait ?
Pour Abraham.
C'est-à-dire pour celui qui va être capable de mettre en pratique le projet divin. Voilà, on vient de le lire, c'est pas compliqué à comprendre. Il est évident que Be'Avraham ne veut pas dire qu'Avraham a créé le monde. Oui, mais ça c'est parce que nous on a une âme juive qui s'est habituée à combattre l'idolâtrie. Malasot, quand tu entends ce genre de verset et que tu as une culture idolâtre, eh bien, tu transformes Abraham en créateur du ciel et de la terre. C'est ce qu'ont fait nos amis en Extrême-Orient. Le dieu créateur de la mythologie hindoue, c'est Brahma. Abraham. Donc, ils ont lu, Ele toldot Hashamayim Ve'aretz Be'Abraham. Iné. Abraham, c'est le créateur. Non, c'est pas le créateur, mais c'est lui qui est en train de réaliser le projet divin. C'est-à-dire, וכל צייח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. On nous dit, il n'y avait encore aucune verdure, quoi que ce soit, Dieu n'avait pas fait tomber l'eau, pourquoi ? Parce que l'homme n'était pas là. Dans le premier chapitre, l'homme, on l'a trouvé à la fin de la création. Dans le deuxième chapitre, l'homme est placé au début comme étant l'idéal et surtout le projet de la création. S'il n'y a pas l'homme, ça ne sert à rien de faire tomber la pluie. Pourquoi est-ce que là-bas, il est mis à la fin et ici au début ? Bien simplement parce que dans le premier chapitre, c'est Elohim, c'est-à-dire la nature. Et de manière naturelle, l'évolution a amené l'homme à la fin, nous dira le Midrash, pour aussi le calmer l'homme. Pour lui dire, sache que si tu te prends un petit peu pour ce que tu n'es pas, rappelle-toi que le moustique t'a précédé dans la création. Mais ici, on parle de Hashem Elohim. La dimension morale du tétragramme montre que, non, il faut d'abord mettre en avant, pas au niveau naturel, mais au niveau de celui qui va pouvoir réaliser le projet moral, à savoir l'homme. Et c'est pour ça qu'on met cette fois dans le deuxième chapitre l'homme en premier. Ok ? Ve'ed ya'ale mina aretz. Veishka et kol pene à Adama. Mais c'est Ed. Ah non, un témoin c'est avec un raïd. Raïd. Là c'est avec un aleph. C'est pas moi qui ai écrit. Regardez ce que dit Rashi. Ceux qui ont Rashi. Ved yale le inyan briato shel adam. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Aala atéom veishka ananim lisrot et afar venivra adam ke gabal ze shenoten maim vacharkar. Il met tout en place. C'est quoi ce Ed Yale Minaretz? On nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait venir, qui a humidifié la terre pour pouvoir, avec cette terre, faire Adam.
Ed, alors, ça veut dire quoi?
Ed, c'est les Edim, c'est de la buée.
La buée.
L'humidité, l'humidité c'est mieux. C'est mieux que buée. Hein?
La rosée.
Alors, c'est pas la rosée, c'est toute l'humidité, quelle qu'elle soit. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On est en train de nous dire que Adam. Donc tu vois que on n'est pas en train de suivre la fin du premier verset, du premier chapitre. On revoit le film d'un autre point de vue. Il y avait un film comme ça, je me rappelle plus comment il s'appelait, où c'était une scène, il y avait un meurtre, et en fait tout le film c'était de revoir la même scène, mais sous un autre angle, d'un autre œil, d'un autre personnage du film. Donc en fait tu reviens à chaque fois au point de départ, mais tu le vois autrement. Donc là, pareil, on revient autrement. Et là, on vient de dire quelque chose. Quand on a vu la création de l'homme dans le premier chapitre, on a dit, bon, Afar Mina Adama. Mais on n'avait pas compris qu'il fallait un élément pour que ça se fasse. Cet élément, c'est quoi? C'est l'eau. Et depuis le début, on dit, mais elle vient d'où cette eau? Et on avait dit, Enmaim et la Torah. Ce qui veut dire que l'homme, pour pouvoir être créé, il a besoin de la Torah. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a besoin de la Guémara? Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que pour que l'homme vive, il doit être rattaché à la source de vie. Ça s'appelle la Torah. La Torah, c'est pas forcément ce qu'on étudie au Beit HaMidrash. La Torah, c'est tout ce qui nous permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, une vie qui est au service du dévoilement divin, eh bien, elle est rattachée à l'éternité. Une vie qui n'est pas au service, enfin rattaché à l'éternité, eh ben, ne sert à rien. De sauf au Shel Davar. Et là, moi, c'est ce que j'ai dit le deuxième jour, là, hier soir, j'ai parlé en Zoom à la Shiva de mon beau-père, et j'ai dit, de sauf au Shel Davar, la seule chose qui est véritablement la question, c'est qu'est-ce que les gens se rappelleront de l'enseignement de celui qui est parti. Le quand dira-t-on dont on a tellement peur quand on est ici, eh bien en fait c'est le point essentiel de notre vie. Puisque les tzadikim sont appelés vivants après leur mort, pourquoi ils sont appelés vivants? Eh bien parce que leur enseignement, leur survie est continue à travers leurs élèves, leurs enfants, leurs petits-enfants. Exactement. Non mais je ne dis pas une nouveauté, c'est une évidence. Donc ici on nous dit la Torah, le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui permet la construction de l'homme. Ve'yale min ha'aretz ve'yishka et kol pnei ha'adama va'yitzer. Je fais exprès de yitzer parce qu'il y a deux yud. Va'yitzer Hashem Elohim et ha'adam afar min ha'adama. Dieu a créé l'homme afar min ha'adama. Alors, avant de vous expliquer le verset, vous comprenez que on parle ici. Depuis le début, j'essaie de vous expliquer ça, d'une dimension métaphysique. Il ne s'agit pas ici d'une création physique. Les termes utilisés sont des termes physiques, évidemment, parce que si la Torah avait été écrite en un flux, du flux, du flux, du flux, on n'aurait rien compris. Les termes sont des termes qui vont correspondre à quelque chose dans ce monde, parce que Dieu, il a créé également ce monde physique. Mais on nous présente ici un monde qui va, au final, s'appeler Gan Eden, ce que tu veux, et c'est pas physique. À l'enterrement de mon beau-père, ils ont dit, Began Eden tie menuchato. On parle pas du corps. On parle de l'âme, évidemment. Et l'âme, c'est pas quelque chose de physique. Donc, ça veut dire que tout ce qui nous est présenté ici, bien que ça utilise des termes très très concrets, eh bien, ça doit être expliqué de manière profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'homme a été créé afar, mina adama. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est la poussière, à part.
Oui, mais encore une fois, on a compris que c'était pas la poussière. Puisqu'il n'y a pas encore de poussière. Elle a. Afar, c'est quoi? C'est Aïn par. La lettre Aïn, et ensuite par. Mais c'est Aïn, c'est l'origine de tout. Ron, Aïn, c'est le néant, la source, machin. Par, qui est fertile. L'ifro, l'irvo. L'ifrot, ça veut dire avoir des bébés.
Pérou,
ou vous. Donc, comment Dieu a créé l'homme? En lui implantant la dimension de vitalité. Mais efo, mais adomem, de ce qui n'avait pas de vie. Adama, ça vient du mot domem. Domem, c'est le minéral, on traduit aujourd'hui. Mais c'est ce qui n'est pas vivant. Par opposition au monde du vivant, il y a le monde du minéral, pas vivant. Donc ça veut dire que c'est quoi l'homme? C'est celui qui donne la vie. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu dans les cieux, il donne la vie, l'homme est celui qui est capable et qui doit être capable de donner la vie. Pour cela, va yitzer avec deux yud. Pourquoi deux yud? Alors, vous connaissez la dracha de nos sages qui dit, il l'a créé avec ses deux yetzarim. Mm-hmm. Yetzer atov ve yetzer ara. Quand on parle d'Yetzer Atov et Yetzer Hara, messieurs, dames, j'ai toujours, moi, alors, puisqu'on parle de BD, j'ai toujours à l'esprit Tintin et Milou. Parce qu'à chaque fois que Tintin envoie Milou en mission, d'aller délivrer un message, d'aller chercher de l'aide, machin, à chaque fois, au milieu du chemin, il y a un os. Et Milou tombe sur un os. De savoir est-ce que je continue ou je mange. Et là, toujours, il y a deux Milou qui apparaissent. Tu connais? Un blanc et un rouge, comme ça. Un ah non, ah non. Tintin et Milou, c'est notre ami Hergé qui n'aimait pas beaucoup les Juifs. Donc, y a une planche secrète de Tintin et Milou où il est clairement fait question des Juifs comme étant les méchants de l'histoire. Cette planche a été changée après la guerre et après...
après un procès avec la Licra.
C'est-à-dire que c'était plus in d'être antisémite.
Et ils ont changé de place.
C'était dans le Tintin au pays de l'or noir, mm-hmm. où les méchants étaient donc les juifs et les écriteaux des magasins étaient en yiddish. Voilà, ça se passe à Haïfa, c'était marqué en yiddish, ce que tu veux. Et le gros nez était là, tout ce que tu veux. D'autant plus que le méchant ultime de Tintin, c'était un juif qui est dessiné trait pour trait, comme dans les caricatures de Rothschild. Ouais. Comme à un moment donné, c'était plus in d'être antisémite, les méchants sont devenus des Arabes et le méchant de l'histoire est devenu Rastapopoulos. Voilà, comme ça, c'est... Ouais, c'est parvé, c'est obsédé. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée du Milou blanc, du Milou rouge. Alors, c'est comme ça qu'on nous apprend Yetzer Atov, Yetzer Hara. Le bon penchant et le mauvais penchant. C'est fondamentalement faux. Complètement faux, parce que si c'est le cas, alors il faut tuer le mauvais penchant pour ne rester qu'avec le bon. Sauf que va yitzer avec deux yud. Que Dieu nous a créé avec les deux. S'il y en a un qui est fondamentalement mauvais, pourquoi Dieu nous a créé avec? Ça paraît évident ce qu'on est en train de dire. Donc non, le yitzer atov et le yitzer hara sont tous les deux nécessaires au bon fonctionnement de l'homme.
Une dualité.
Il y a une dualité qui est nécessaire.
Oui, c'est pour...
Mais c'est quoi?
C'est pour le libre arbitre.
Alors, tu... me dit c'est pour qu'il y ait le libre arbitre, donc il y en a un qui tente de me faire aller dans le mauvais sens et l'autre dans le bon sens. Tu es resté dans l'idée qu'il y a un bon et un mauvais.
Oui.
Non, il n'y a pas un bon et un mauvais. C'est nous qui les avons appelés Yetzer Atov et Yetzer Hara. C'est pas qu'il y en a un qui est mal.
Peut-être pour que quand il prend une décision, que ce soit quelque chose de réfléchi et non pas de spontané.
D'accord. Donc toi tu dis Yetzer Hara, c'est quand tu fais sans réfléchir. Alors les amis, qu'est-ce que c'est?
Instinctif, c'est plus animal.
Alors je vais vous dire, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Je vais vous donner une définition très simple du Yetzer Hara. Attention, tenez-vous bien. C'est l'inverse du Yetzer Hara. Tu vois, ça suffit pas? Bon, alors je vais te donner un complément d'information. Nous dit le texte de la Torah, alors c'est vrai, on n'y est pas encore arrivé, on va y arriver, que Yetzer lève à Adam... Ra mineurav, c'est à la fin de la paracha de Bereshit. Rashi là-bas nous dit, c'est quoi neurav? Mishash et ninar mimeimo. C'est-à-dire, à partir du moment où le bébé sort du ventre de sa mère, c'est une boule de Yetzerara. Que du Yetzerara.
Du mauvais.
Ah, il ne veut que recevoir.
J'ai pas dit mauvais, c'est toi qui as dit mauvais. J'ai dit Yetzerara. Le Yetzerara Tov rentre dans l'homme à la bar ou bat mitzvah. Ok ? J'ai déjà dit, bien sûr, je radote. Le bar bat mitzvah, c'est 12-13 ans. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi cet âge-là ? On ne l'a pas choisi. C'est l'âge de la maturité. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge de la puberté. C'est, en moyenne, évidemment. Il y a des gens, c'est qui c'est un peu avant, un peu après, l'homme chané. Mais en moyenne, c'est 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons. Mais c'est quoi la puberté à part les boutons ? Et le fait que l'enfant devient insupportable ? C'est la possibilité de donner la vie. Donc c'est quoi le Yetzer Tov ? C'est la volonté de donner la vie. Yetzer Ra, c'est l'inverse. La volonté de recevoir la vie. Quand je fais quelque chose pour me faire un kiff, ça s'appelle Yetzer Ra. Quand je fais quelque chose pour donner la vie, pas forcément en faire un bébé, mais qui va amener à de la vie, qui va amener à plus de vitalité à quelqu'un d'autre, c'est Yetzer Tov. Il est fondamental que je comprenne ce que m'explique le Rav Binyamin Zev Ashlag, le commentaire du Zohar à la, du Soulam à la Zohar, qui nous explique que l'évolution de l'homme est en quatre étapes. Bébé, enfant, adolescent, adulte. Le bébé ne veut que recevoir pour recevoir. Et c'est tout à fait bécédère pour un bébé. Un adulte qui se comporterait comme ça, ce serait un rachat. Pourri. Ne veut que recevoir. Un enfant, il veut donner pour recevoir. Non, tu n'iras pas jouer avec tes copains tant que tu n'as pas fait tes devoirs. Donc il est prêt à donner les devoirs. Pourquoi ? Pour recevoir la permission d'aller jouer.
On est en train de vous recevoir vos paroles.
Oui,
et vous les donnez. Alors qu'est-ce qu'on est ?
Ah, mais moi je reçois le salaire après. C'est pour ça ? Non, mais justement, on va arriver à l'adulte. Deux secondes, on arrive à l'adulte. L'enfant, il veut donner. Mais pas parce qu'il a envie de donner, parce qu'il a envie de recevoir à la fin. C'est-à-dire ?
S'intéresser.
Bien sûr. Alors, quand on a un enfant, c'est bécédère. Un adulte, ce serait quelqu'un d'hypocrite, d'intéressé, ce que tu veux. L'adolescent, idéaliste. Il veut que donner. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en rébellion contre ses parents, parce qu'il pense que ses parents n'ont plus d'idéaux. Tu comprends pas que rester au téléphone avec ma copine jusqu'à 4h du matin, c'est plus important que d'être en forme pour mon examen de maths ? Enfin, tu n'as aucun idéal, papa. Je me rappelle un jour, lorsque j'ai dit à mon père, qui m'avait énervé beaucoup, parce que tu comprends, moi j'avais 17 ans, donc c'est moi qui savais, et lui il ne savait pas. J'ai dit, mais comment ? Moi je me rappelle de toi, j'ai vu des photos, papa. J'ai vu des photos de quand tu avais 17 ans. J'ai vu la coupe de cheveux des Beatles. J'ai vu les pattes d'Eiffel sur le pantalon. Je l'ai vu. Comment tu peux t'avoir oublié ? Et après, il m'a dit une insulte en yiddish, on va pas rentrer là-dedans. Bekitsour, ça, c'est l'adolescent. L'adulte, il comprend qu'il veut recevoir pour pouvoir donner. Parce que si je n'ai pas reçu, je ne peux pas donner. Ce que je te donne là maintenant, c'est parce que je l'ai reçu avant. Et quand j'allais au cours, moi, c'était dans l'idée qu'un jour, je serais capable de le retransmettre. Et ça, c'est l'adulte. Donc, c'est quoi recevoir, Yetzerara ? C'est quoi donner ? Yetzeratov. J'ai besoin de mon Yetzerara, sinon je ne peux pas utiliser mon Yetzeratov. Il faut juste que l'un soit au service de l'autre et pas se planter. C'est-à-dire ? Donc, va Yitzer Hashem Elohim et Adam, afar min Adama, va Yipach be'apav nishmat chayim. Va Yia Adam le nefesh chaya. On avait expliqué ce terme de va Yehi. Ça veut dire que l'homme fait partie du Olam Abba de manière permanente. Va Yita. Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem. Kadosh Baruch Hu a mis en place Gan Be'eden Mikedem. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui s'appelle Gan et une dimension qui s'appelle Eden. On va voir laquelle est supérieure à l'autre. Donc, Mikedem Vayasem Sham et Adam Asher Yatsar. Vayatsmach Hashem Elohim Mina Adama. Dans cette fameuse dimension de Gan et de Eden. Kol etz, moi c'est etz,
des arbres.
Des arbres. Mais en fait, c'est l'origine de la compréhension. Un arbre a un tronc et des ramifications. C'est-à-dire qu'il y a une cause et des conséquences. Il y a le fruit qui va sortir de l'arbre. Etz, ça vient du mot etza, un conseil, ce qui me permet d'arriver au dévoilement de la vérité. C'est la raison pour laquelle, pas seulement à cause de l'ombre, qu'à l'époque on rendait la justice et on prenait conseil sous les arbres, tel Dvora, qui rendait la justice sous le tomer de Dvora. Comme notre ami Louis IX, bien évidemment, bien évidemment. Donc il y a plusieurs styles d'arbres. Yesh etz nechmad le mar'e vetov le ma'achal. C'est-à-dire que ce sont des concepts, des informations qui sont bonnes à prendre. Parve. Ve'etz ha'chaim betoch hagan. Il y a aussi l'arbre de la vie.
Le premier essai d'abord, c'était quoi ?
C'est, ils sont bons à voir, bons à manger. Ça ne peut pas faire de, ça mange pas de pain, comme on dit chez nous. C'est-à-dire ? Le deuxième, c'est l'arbre de la vie, Asher Betor Hagan, qui est au milieu du jardin. Ve, Etzadat, Tovara. Donc on a trois sortes d'arbres. Bon à voir, bon à manger, de la vie et de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Ok. Là, on nous dit. Venaar yotse mi Eden lashkot et agan. Il y a donc un fleuve qui sortait du Eden pour arroser le jardin. Donc, qu'est-ce qui est plus élevé, Eden ou Gan Eden?
Eden.
Eden. L'eau, ça va du haut vers le bas. Donc, s'il y a un fleuve qui sort du Eden pour arroser le jardin, c'est qu'il y a d'abord Eden et ensuite Gan Eden. Gan Eden, c'est une réalité dans laquelle se trouvait Adam Arishon, blablabla, blablabla, et c'est là que les Neshamot retournent après la mort. Mais il y a une autre réalité que personne n'a jamais atteinte, c'est Eden. Eden, ça vient du mot Adain. Pas encore. Pas encore.
Pas encore.
C'est une dimension qu'on n'a pas encore atteinte. C'est ce qu'on appelle dans le langage du Talmud, Olam Haba. Olam Haba, Ain lo ra'ata Elohim zulatecha. Quand les Chachamim se posent la question dans le Talmud, les prophéties, elles parlent de l'avenir, mais de quoi ? Et le Talmud nous dit, toutes les prophéties parlent de Yemot HaMashiach, aval Olam Haba, Ain lo ra'ata Elohim zulatecha. Aucun œil n'a vu cela. Même celui des prophètes, même Adam Arishon, il n'a pas vu Eden.
Ce qui se passe, c'est-à-dire là-haut.
C'est la dimension de Eden, on n'y est pas encore. C'est la dimension du huitième jour. Quand on aura terminé le septième, on pourra rentrer dans Eden. Pourquoi c'est important alors de savoir qu'il y a, si on n'y est pas de toute façon? Parce que c'est important de savoir qu'il y a un idéal vers lequel tendre. Si tu ne sais pas qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher plus loin, ben, tu n'avances plus. Et comme a dit Mohamed Larbi Sliman ou Rabbi Zeligman pour les intimes, la révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. C'est-à-dire, donc, Eden, Gan. Et là, on nous dit, donc, il y a l'eau, la vie, qui sort du Eden, qui arrose le jardin, où Misham y pared les arba, vaya les arba rachim. Là, j'ai plein d'infos. Je sais que ce fleuve, finalement, du Gan Eden, il se divise en quatre têtes. Mais ça veut dire qu'avant qu'il se divise, il est meouchad. Donc, je sais maintenant ce que c'est le Gan Eden. Achdout. C'est quoi Gan Eden, si on vous demande? C'est l'unité.
C'est chez moi.
C'est chez toi. Bah, tu vois, on est tout ça. C'est l'unité. Nahan? Gan Eden, si on vous demande c'est quoi le Gan Eden, tu peux t'as une définition du Gan Eden? Achdout. Achdout. L'unité.
Pourquoi?
Je relis le verset. Je redis le verset. Je redis le verset. Le verset me dit, il y a un fleuve qui sort du Eden pour arroser le jardin. De là, on a compris que Eden, c'est plus haut que le jardin. Cette dimension qu'on n'a pas encore atteinte, ok, qui est la dimension du pas encore, la dimension du huitième jour, ok, c'est autre chose. Mais ce fleuve arrive dans le jardin, et on nous dit, de là, du jardin, il se sépare en quatre têtes. Ok, donc de là, j'en déduis, c'est quoi le Gan Eden? C'est, quand c'est pas encore séparé, c'est la Hardout. Non, le Eden, c'est Bichlal, encore autre chose. C'est la source. Si on veut vraiment se poser la question, le Eden, c'est l'origine de tout. Mais le Gan Eden, c'est le monde de l'unité. C'est pour ça d'ailleurs que les Neshamot...
C'est hein, dur, c'est pour ça que c'est dur à réaliser.
Ben, c'est pour ça qu'ici, c'est compliqué,
ouais,
bien évidemment.
Ouais.
Mais que dans le monde des Neshamot, tu peux avoir deux Neshamot qui se disputaient énormément, qui sont assis ensemble au Gan Eden. Alors, le Rabbi Chaim de Volozhin, Rabbi Chaim de Volozhin disait que à côté du Gaon de Vilna est assis le Baal HaTanya, l'Admour HaZaken. Ils ne se sont jamais rencontrés dans leur vie, ils n'ont pas accepté de se rencontrer, c'était la guerre entre les deux. Mais au Gan Eden, ils sont assis à côté l'un de l'autre. Le monde de l'unité. Ça donne ? Mais dans ce monde-là, il s'est séparé en quatre têtes. C'est quoi ces quatre têtes ? Donc, alors, regardez.
Après le Gan Eden.
Ah oui, en sortant du Gan Eden, ça se sépare en quatre têtes. C'est quoi ces quatre têtes ? Eh bien, regardez. On nous dit « Shema Echad Pishon ». Un des quatre fleuves, c'est devenu le Pishon. « Où sauver avec Kol Eretz HaChavila Asher Shama Zahav ». C'est quoi Pishon ? À part quelqu'un qui prononce mal mon nom. Parce que moi, c'est Pison. C'est pas Pishon. Moi, c'est Pishon. Nous dit Pishon, Rachid nous dit Anilus. Le Nil.
Le Nil. Ah, d'accord.
Ouais, nous dit Pishon, c'est le Nil. Évidemment qu'il ne s'agit pas du Nil que nous, on connaît. Mais on va voir dans deux secondes ce que ça veut dire. Le Nil, ok. Shem, sera un. Vazav, Uzav, Aretzaï, Tov, Shama, Bedolar, Veven, Shoam. Ce zav permet, ou tov, il permet de faire du bien. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec le zav de l'Égypte ?
On fait des idoles.
Ouais, ou alors le Mishkan.
Ou le Mishkan.
C'est vrai ? Donc c'est à nous de voir ce qu'on va en faire. Veshem anar asheni Gihon. Le deuxième fleuve, c'est le Gihon. Alors c'est pas. C'est pas eux. Gihon, on nous dit c'est quoi le Gihon ?
Le Gange.
Le Gange.
Wow.
Le Gange.
Ah, sont...
Oui, hein, c'est pas mal. Hein.
Oui, c'est pas mal. Après, tu as
le tigre. Ve ou sauve kol eretz kush, ve shem le tigre. Ve ou oler kidmat ashur ve anar revi ou perat, l'Euphrate. Donc, le Nil, le Gange, le tigre et l'Euphrate. Alors, évidemment, on a dit, ce ne sont pas. On ne parle pas ici des vrais fleuves. Il y a les vrais fleuves. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous savez très bien que les civilisations sont nées à côté des fleuves. Pour des raisons très simples. C'est-à-dire, ces quatre fleuves ont vu la naissance des quatre civilisations qui ont dominé le monde, qui ont mis en place le monde civilisé. À savoir, eh bien, la civilisation égyptienne, la civilisation de l'Inde, qu'on méprise parce qu'on ne connaît pas bien, mais qui en fait a été... à la pointe de la civilisation humaine en parallèle, c'était un autre pôle de civilisation, mais c'était très fort, la Assyrie, Ashur et Babylone. Ok ? Ce sont les quatre grandes civilisations qui ont civilisé le monde.
Mais qu'est-ce que ça fout là ?
Tu te rappelles qu'on parle souvent de ces grands empires, tout ça, à chaque fois dès le début de Béré, c'est quoi tout ça ? Torah Takabala nous explique que dans chacune de ces civilisations, on vient apprendre quelque chose. De l'Égypte, qu'est-ce qu'on apprend ? La Chochma. C'est ce que Avraham dit à Sarah. Avraham dit à Sarah quand il arrive en Égypte, Sarah, il lui dit « Imrina achotiat ». Vous vous rappelez de ce verset ? Que on traduit de manière erronée en disant que Avraham a dit à Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Alors évidemment qu'elle a dit ça, mais c'est pas ça que ça veut dire. Parce que littéralement, il lui a pas dit « Dis que tu es ma sœur ». Il lui a dit « Dis, deux points, tu es ma sœur ». À qui elle doit dire ça ?
Pharaon.
À Pharaon, à l'Égypte.
Oui,
à l'Égypte. Alors elle doit dire à l'Égypte « Tu es ma sœur ». Bizarre. Non, pas bizarre, parce que je me rappelle ce qui a marqué dans le livre de Michelet, des prophètes de Shlomo HaMelech, qui me dit « Et mort la chochma achoti at ». Ce qui veut dire qu'Abraham a dit un code à Sarah pour lui expliquer ce qu'on est venu faire en Égypte. Prendre la Chochma. Le Gange, d'après la Kabbalah, Hodu Zabina. La capacité de discernement. Le tigre de la civilisation assyrienne, la Assyrie, c'est devenu quoi plus tard ? L'Empire perse. C'est-à-dire que Yeshtif Eret et Babylone, c'est Malchut. Malchut. Parce qu'on a dit, dans la paracha de Noach, Vatei Reshit Mamlachto Babel, que Babylone est devenue la première royauté. C'est-à-dire, donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Que du Gan Eden, il y a eu la séparation, mais cette séparation a amené les quatre grandes idéaux qui vont créer la civilisation humaine. Ça va pas ? On est bon ? Yofi. Vaikach Hashem Elohim et Adam vayanichehu began Eden leovda ou le shomra. Dieu a pris Adam, il l'a mis dans le Gan Eden, et c'est quoi l'objectif ? Leovda ou le shomra. Nous dit Chazal, pas de problème. Leovda mitzvot assez, le shomra mitzvot lota assez. D'un côté les mitzvot positives, de l'autre côté les mitzvot négatives. Oui, sauf qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore des mitzvot, ni positives ni négatives. Azma korepo. Eh bien, ma korepo, hein ?
Ça vient après.
Ça vient, oui, ça vient juste après. Nahon, ça veut dire quoi ? C'est que, oui, je l'ai mis là, il n'y a pas encore. Mais voilà pourquoi il est là. Ok ? Vayetzav. Vayetzav, ça veut dire, c'est un ordre. Tzivouy, commandement. Vayetzav, et c'est le premier commandement que l'homme reçoit en tant qu'homme. C'est vrai qu'il était compris dans le Pérou ou vous, mais c'était compris avec les animaux et le reste. Là, c'est le premier commandement que l'homme reçoit. Vayetzav Hashem Elohim ala Adam lemor, mikol etzagan achol tochel. Voilà. Tu te dois de manger de tous les arbres du jardin. Donc les trois. Et tov le marev et tov le machal, et tzachayim ve et tzadat. Les trois, tu dois manger. Ah! Ou me et tzadat tov vara, lo tochal mimeno ki beyom acholcha mimenu mot tamut. C'est quoi? C'est un autre verset qui me dit, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que
sinon,
tu vas mourir. Donc, est-ce que ça veut dire que Dieu a ordonné à Adam de tout manger sauf celui-là? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que la Torah, elle sait faire une liste et dire sauf. Elle le fait très souvent. Les mots ach, milvad, rak. C'est-à-dire que la Torah aurait dû dire mikol etzagan achol tochel, rak me etzadat lo tuchal mimeno. Ou ach me etzadat, ou milvad me etzadat. Il n'y a pas marqué. Ce qui veut dire que nous avons ici deux mitzvot qui se contredisent. L'un nous dit il faut manger de tout, l'autre nous dit celui-là tu ne manges pas. Mitzvah tassé, mitzvah tlota tassé. Que faire ? Eh bien, lorsqu'on est dans un cas comme ça, qui gagne ? Assez, doré lota tassé. C'est un grand principe de la halakha. C'est pour ça qu'on fait la brit mila Shabbat, si c'est le huitième jour, parce qu'on a une mitzvah de faire la brit mila le huitième jour. C'est vrai qu'on a un interdit de faire sortir le sang Shabbat, mais la mitzvah positive prend le pas sur la négative. Ce qui veut dire que Adam Arishon doit manger quand même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ça va lui être reproché? On verra. Mais, a priori, il doit. Quel est le problème de manger de Etz Adat Tovara? C'est que ça amène la mort. Donc, on n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir manger Etz Adat Tovara? Il faut avoir pris d'abord la troisième dose
de
la vie.
Adam, là, il ne sait pas ce que c'est que la mort aussi.
Nahon, mais Dieu lui dit, c'est à cause de ça que tu ne peux pas manger. Donc, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a un truc qui s'appelle Etzachayim. Mange d'abord Etzachayim, et après, il n'y aura pas de problème. En d'autres termes, le problème d'Adam Arishon, ce n'est pas qu'il ait mangé Etzadat, c'est qu'il ait mangé Etzadat avant de manger Etzachayim. Ou alors, dans notre langage, comme j'ai reçu du Rav Cherki, c'est d'avoir été à l'université avant d'avoir été à la yeshiva. C'est-à-dire qu'il fallait aller aux deux. Mais il fallait commencer par se remplir de Torah pour ensuite se remplir de toute la date. C'est-à-dire que quelqu'un qui irait que à la yeshiva, que Torah, que Torah, que Torah, zelo beseder. Quelqu'un qui irait que à l'université des sciences, machin, ou l'homme chané, zelo beseder. Il faut les deux.
Et comment tu expliques qu'il y a plein de gens très religieux qui ont des enfants, ils n'étudient que la Torah?
Parce qu'ils ne sont pas au cours.
Ils ne savent rien de ce qui se passe.
Mais parce qu'ils ne viennent pas au cours.
Ça me rend fou.
Ils ne viennent pas au cours.
Ça me rend folle.
Dis-leur de venir au cours.
Moi, j'ai des neveux.
Ben, dis-leur de venir, d'écouter le cours, transmets-leur. Peut-être que s'ils vont écouter le cours, ils vont changer. Je vais te dire. Il y a un chamboulement du judaïsme après la Shoah, qui était peut-être nécessaire à l'après-guerre, qui a implanté dans le cœur des juifs religieux une compréhension complètement erronée de la Torah. Je m'explique. À la fin de la Shoah, le monde de la Torah a été extrêmement ébranlé, comme beaucoup d'autres milieux, mais aussi le monde de la Torah. Et donc, les rabbins qui étaient encore là, que ce soit aux États-Unis, en Israël, ou ceux qui restaient encore en Europe, ils ont dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour redorer la Torah. Et donc, ils ont dit, et la asot la shem, et feru Torah techa. Des fois, pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. Donc, on va inventer un concept qui n'existait pas avant, qui a existé à Kovno en 1848 ou 9, un truc comme ça, en Lituanie, mais il y avait 12 personnes, c'était même pas ça, quoi. On va inventer un concept qui s'appelle le kollel. On va mettre des gens, ils vont étudier la Torah tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute leur vie, parce qu'on doit refaire des talmidei chacham. Pour réussir à faire ça, il va falloir trouver des donateurs, machin, là, et puis il va falloir surtout que on accepte de faire quelque chose qui jusqu'à présent était considéré pour nous tous comme étant la pire des choses, c'est faire que les femmes, elles aient travaillé. Oui, parce que sinon, ils n'ont rien à manger. Jusqu'à présent, les femmes, elles étaient à la maison. Chas veshulaim, chulile vechas, comme on dit, qu'elles sortent de la maison, parce que c'est pas de sa noix, il va voir une femme qui sort de la maison. Mais là, pour laisser le mari aller boire du thé à la yeshiva, alors, il fallait bien. Et on a créé le concept du kollel. C'est un concept qui est étranger au judaïsme. Dans les lois sur le Talmud Torah, chapitre 3, il dit il est né mais à Torah ba'olam hazé. Le Rambam il dit comme ça. Le langage du Rambam, c'est donc, il ne fait pas de différence au Rambam entre étudier et enseigner. Arezeh chilel et Hashem, biza et ta Torah, kiba meor adat, c'est-à-dire, il fait du chilul Hashem, il fait honte à la Torah, il éteint la lumière du judaïsme. Dur, hein? Alors, il y a plein de rabbins qui ont écrit sur le Rambam en disant, ok, mais non, pas les rabbins, pas celui qui enseigne la Torah. Ben oui, la communauté, elle veut qu'il m'enseigne, elle veut qu'il enseigne la Torah tout le temps. Donc il n'a pas le temps d'aller travailler, il faut bien qu'il mange. Donc il y a des rabbins qui ont permis celui qui enseigne qu'il soit payé pour ça.
Moi, on a un métier.
Ben parce que le klal, il demande ça. Mais il faut bien se rappeler que jamais ça a été le cas, ni à l'époque du Beth Amikdash, ni à l'époque du Talmud, machin. Tous les rabbins, ils avaient tous un métier. Tous.
Comment ? Et moi, je connais un rabbin qui a dit que lui, il n'a pas le temps d'étudier la Torah, il adore ça, il est très poussé. Donc, il crée un kollel donc ils étudient à sa place.
Mais donc, ça,
de ne pas pouvoir
accumuler
toutes ses connaissances parce qu'il a créé un kollel.
Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'étudier autant qu'il faut, machin, ouais, je ne sais pas. Parce qu'il y a trop à faire, il y a trop de travail, ou alors parce que je n'ai pas les capacités de m'asseoir 10 heures par jour à étudier la Torah. Non, mais ça peut être ça, ça peut être ça.
On a une arrière-petite fille à l'instant.
Pchiii Zalto
La dixième.
Et Mantav, ah, tu vous voyez
Pchiii
Il a fait Mazal Tov. Et c'est Simcha. C'est la vie, les amis.
Non, c'est la vie.
Il a fait Mazal Tov. Kidouche Goudol. Kidouche Goudol. Ah ouais, c'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas étudier autant.
Pour des raisons.
D'abord, ça ne leur enlève pas l'obligation d'étudier quand même un peu tous les jours, parce qu'on a tous une obligation. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle « iskat issachar ou zevulun ». C'est-à-dire, moi j'ai de l'argent, mais j'arrive pas à étudier. Toi, t'as pas d'argent, mais tu arrives à étudier. Et viens, on fait une shoot-a-foot. Moi, je travaille, je te finance, toi, t'étudies, tu m'enseignes. Ok ? Mais ça marche que quand c'est de l'un contre un. Ça marche pas en termes de société. Donc, si dans le collège, chaque mec du collège, il est financé par un businessman, et il se parle tous les jours, et machin, ok, c'est pas le cas. Ça a l'air. Donc, le problème, il est le suivant. C'est qu'on a créé une société de gens qui pensent que s'exclure du Olam Hazé, c'est plus idéal que d'être dans le Olam Hazé, d'y dévoiler à Kadosh Baruch Hu. C'est une grande erreur. C'est une très, très grande erreur. C'est-à-dire, et mal à saute. Donc, il fallait manger de tout ça. Et là, c'est parti. On revient dans notre histoire. Va Yomer Hashem Elohim Lotov. Ben, au début, à la fin du premier chapitre, il avait dit Kol Asher Asav et Ine Tov Meod. Là, il a dit Lotov. Ah, c'est terrible. Lama ze Lotov ki eyot a Adam Levado.
Donc
ça veut dire que toute la création ne sert à rien qui a Adam ou Levado. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Levado?
Seul.
Non.
Qui est pour lui.
Levado, ça ne veut pas dire tout seul.
Qui est pour lui.
Non.
Égoïste.
Solitaire.
Comment on dit tout seul dans le Tanakh? On ne dit pas Levad. On dit Boded.
Comme
Chayal Boded. On dit Eicha Yasheva Badad Aïr Rabatia. Badad, ça veut dire tout seul.
Ici, quelle... une traduction isolée.
Non, mais ça ne marche pas non plus isolé.
Ça marche pas.
Non, parce que quelqu'un fait du jardinage.
Un peu.
Un petit peu, merci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de planter un jeune arbuste ou un jeune arbre, machin? Il n'est pas encore très très fort. On veut qu'il pousse bien droit. On lui met un tuteur. En hébreu, on appelle ça un lavoud. Levad. Hein?
Pas makel.
Non, bah, makel, c'est stam, makel. Là, dans le jargon, hein, ça s'appelle lavoud. Levad, ça veut dire tout seul collé à quelqu'un d'autre.
Ça marche aussi pour les gens?
Ben oui. Enfin, pas dans l'hébreu moderne, parce que dans l'hébreu moderne, on te dit levad, c'est tout seul, tout seul. Mais dans la Torah. Oui, bah oui. Ah, je ne sais pas si on parle comme ça. Non, je ne pense pas qu'on parle de ça. Je ne pense pas qu'on dise ça en hébreu moderne. Mais dans la Torah, ici, quand on nous dit « Loto veyota Adam levado », c'est parce que pour l'instant, Adam vechava, Zachar et Nekeva, ils sont là tous les deux.
Ouais.
Mais ils sont collés l'un à l'autre. Ah, ça ne marche pas. Parce que s'ils sont collés l'un à l'autre, ils voient la même chose, ils pensent la même chose, ou du moins, ils ne peuvent pas se voir. Et c'est l'eau, Ezer, Kenegdo. Elle deviendra une aide, ou il deviendra une aide pour elle, pour lui, quand ils seront face à face. Pourquoi? Parce qu'enfin, ils pourront compléter ce que l'autre, enfin, ce qu'ils n'avaient pas avant. C'est quoi? La capacité de voir la panime. On l'a déjà dit souvent, je peux tout voir en moi, sauf mon visage. J'ai besoin de l'autre qui me renvoie mon reflet, qui me revoit donc l'éternité. Comme disait Emmanuel Levinas, je ne dis pas que l'autre est Dieu, mais je dis que dans le visage de l'autre, je vois le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire que tant que Adam et Chava ils sont ensemble, collés l'un à l'autre, qu'ils ne peuvent pas s'auto-voir, ça ne marche pas. Et c'est lo ezer kenegdo. Il va donc falloir maintenant s'occuper du découpage de Adam Vechava. Rappelons-nous, on parle ici d'une Neshama. Il n'y a pas encore de corps. Donc tout le... Il a pris la côte, il a pris... Non. C'est-à-dire, c'est une Neshama. Cette Neshama, elle est une. Et il y a deux dimensions dans cette Neshama. Il faut les séparer. La question, comment on va les séparer? Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Chazak Baruch.